L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission L'AJT du local de ce jeudi 6 mai. Je suis aujourd'hui en compagnie de Claire, salut Claire.
Et oui, salut Marie, salut tout le monde. Et vous savez pas quoi, ce 6 mai c'est l'anniversaire de Georges Clounet. Donc voilà, si Georges tu nous entends, n'hésite pas à nous appeler, à nous laisser un petit message, ça nous ferait vraiment plaisir.
Surtout qu'on le sait, hein, c'est un fervent auditeur de L'AJT du local, donc qui n'hésite pas à nous laisser un petit message. Et exactement. Bon anniversaire Georges, en effet. Aujourd'hui, donc le 6 mai, outre l'anniversaire de Georges Clounet, on va parler quand même d'autres choses un petit peu peut-être plus proches de nous, notamment en Mayenne, des prothèses mammaires en tricot pour aider ces femmes victimes d'un cancer du sein. C'est une initiative d'Armel Roquetou que je vous propose d'écouter dans le reportage. Et puis l'interview, ce sera l'occasion de parler des projets déjà portés dans les maisons éclusières le long du chemin de halage en Mayenne, puisque le département lance un nouvel appel à projets pour deux nouvelles maisons éclusières, mais on verra des projets qui, eux, sont déjà bien installés. Et puis en fin d'émission, comme depuis le début de cette semaine, on poursuit notre feuilleton auprès du chœur In Paradisum qui enregistre son deuxième album, C'était au carré à Château-Gontier.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, Franck Riester en Mayenne ce jeudi.
Le ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité est aujourd'hui dans le département pour mesurer le déploiement du plan France Relance et notamment dans les entreprises qui exportent à l'international leur production. Il s'est rendu ce matin à Louverney sur le site de l'entreprise Bridor, spécialisée dans les produits boulangers surgelés, et sur le site de Willow qui relocalise à Laval une partie de sa production favorisant la transition écologique. Cet après-midi, Franck Riester visitera le groupe Serap, entreprise d'agro-équipement, et l'entreprise Rapido qui fabrique des camping-cars.
De nouvelles doses de vaccins à Château-Gontier.
Le centre de vaccination de Château-Gontier, situé à l'espace Saint-Fiacre, va être doté de nouvelles doses du vaccin Moderna. Toutes les personnes éligibles à la vaccination, c'est-à-dire les 12-55 ans atteints de comorbidité, les personnels de l'éducation nationale et tous les sujets prioritaires qui n'ont pas réussi jusqu'ici à recevoir leur première injection, peuvent prendre rendez-vous soit via doctolib.fr, soit via la plateforme départementale en appelant le 02 43 53 53 00. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur place pour fixer le jour et l'heure de l'injection.
Plus de 12 000 intentions d'embauche en Mayenne cette année.
C'est le résultat de l'enquête besoin en main-d'œuvre réalisée par Pôle emploi. Cela représente un fléchissement des intentions d'embauche de moins 14% par rapport aux prévisions de l'année dernière. Les recrutements sont particulièrement tendus sur le bassin de Laval et plus fluides sur le bassin de Château-Gontier. Près d'un quart des intentions d'embauche le sont dans le cadre d'une activité saisonnière.
Les associations environnementales se mobilisent après le déboisement excessif du bois de Coupeau à Saint-Berthevin.
Mayenne Nature Environnement, basée à Louverney, et l'association berthevinoise Cardamine doivent rencontrer le maire de la commune Yannick Borde d'ici la fin de semaine. Mayenne Nature Environnement dit vouloir passer de cette déforestation industrielle à un vrai projet environnemental, patrimonial et sociétal.
Deux blessés dans un accident avec un car scolaire ce matin.
Un minibus et un car scolaire se sont percutés effectivement ce matin vers 7h30. Au lieu dit, le pont vient à livrer la touche près de Cran. Deux personnes ont été blessées, la conductrice du minibus et une passagère de 19 ans en situation de handicap. Le chauffeur du car scolaire, lui, en est sorti indemne.
Et Marie, des prothèses mammaires en tricot pour aider les femmes victimes d'un cancer du sein.
C'est l'initiative portée par Armel Roquetou en Mayenne. Avec son groupe de bénévoles, cette secrétaire médicale en cancérologie confectionne des prothèses mammaires en tricot ou en crochet, très utiles pour les femmes ayant subi une mastectomie. Un engagement auquel tient Armel Roquetou qui date déjà d'il y a quelques années.
J'ai travaillé d'abord pour un groupe qui était sur la Baule, une dame qui a créé le premier groupe Kni Tête No Cœur en France. Et donc, au bout de quelques mois, j'ai décidé de créer moi-même mon groupe dans ma région. Nous faisons des prothèses mammaires au tricot ou au crochet pour proposer aux femmes qui ont subi l'ablation d'un sein pour pouvoir les mettre dans un soutien-gorge normal. Et ça peut être une alternative donc aux prothèses mammaires traditionnelles. Elles sont beaucoup plus souples. Au retour des personnes qui les ont utilisées, elles sont confortables, agréables et très douce à la peau, donc elle les trouve très bien, quoi. Alors moi, comme je travaille encore, je fais ça souvent le soir. Moi, en ce moment, je peux en faire une à deux par semaine, quoi. Il faut compter environ 3 à 4 heures pour pouvoir en faire une, quoi, si on s'y tient régulièrement. Il y a 10 ans que moi, j'ai été confrontée au cancer du sein dans ma famille avec pas mal de cas. Et puis, je travaille aussi dans un service de cancérologie. Donc, c'est une cause qui me tient à cœur. Donc, moi, j'ai un groupe de bénévoles qui tricotent. Elles me donnent les prothèses. C'est moi qui assure le contrôle qualité pour vérifier s'il n'y a pas de problème, si tout est bien fait. Après, donc, je les garnis avec un rembourrage en 100% polyester qui est hypoallergénique. Et donc, après, je peux les envoyer aux femmes qui en font la demande. Les personnes qui demandent les prothèses peuvent les commander directement sur le site Knitted Knocker ou alors en passant par mon adresse mail à moi qui est kkfmayenne53@gmail.com. On fait des bonnets A, B, C, D, E et puis donc on en a en stock et après, en fonction des demandes, on les envoie au fur et à mesure, quoi. Je suis aidée pour ce projet par une association qui est l'association parenthèse de 53 qui est à la polyclinique à Laval. Et donc, c'est elle qui m'aide pour l'achat de toutes les fournitures.
Et pour soutenir ce projet, vous pouvez faire des dons à l'association Parenthèse 53. Les prothèses mammaires sont gratuites pour les femmes qui le désirent. Et pour contacter le groupe de bénévoles tricoteuses, une adresse mail kkfmayenne53@gmail.com. On vous mettra de toute façon tous les liens donc, sur notre site internet l'autreradio.fr si vous n'avez pas eu le temps de noter. On parle justement de ces projets qui sont nés le long de la Mayenne dans des maisons éclusière et notamment des gîtes et un restaurant, ce sera dans 3 minutes juste après Quick Ball d'Oni Fit.
Chop you into cubes, gonna chop you into cubes, put you in my freezer. Defrost you and put you in a stew.
C'était Quick Ball d'Oni Fit dans l'agité du local. Et une question pour l'interview « Comment valoriser les maisons éclusières le long de la Mayenne ?». Un appel à projet a été lancé par le conseil départemental pour les maisons éclusières de Mirevaux et de Pendu, situées à Château-Gontier. Elles pourraient bientôt accueillir des hébergements touristiques, de la petite restauration ou des services divers pour les randonneurs et les plaisanciers. Exemple avec deux professionnels qui ont déjà sauté le pas et créé leur projet dans ces maisons qui étaient dédiées auparavant aux personnes qui activaient manuellement les écluses.
Je suis Laetitia Chorin, je suis gérante et créatrice des refuges du halage, donc trois gîtes qui sont sur les bords de la rivière entre Montflour et Montgirouf.
Est-ce qu'on peut revenir sur l'origine en fait de ce projet, puisque les deux gîtes ont ouvert, les trois gîtes pardon, ont ouvert respectivement en 2019 et en 2020. Comment ça s'est passé? Comment l'idée déjà vous est venue?
En fait, ça fait très longtemps que je souhaitais ouvrir des gîtes d'étape. J'avais comme projet, en fait, une sorte d'auberge de jeunesse pour les voyageurs en Mayenne. Donc ça, c'était un projet que j'avais déjà depuis longtemps. Je ne pensais pas forcément le concrétiser aussi rapidement, mais l'appel à projet du département a été lancé en 2018 pour reprendre les maisons éclusières. Et donc voilà, ça, c'était le bon moment. Moi, je n'étais pas en poste fixe. Hein, je travaillais dans les offices de tourisme à ce moment-là. Et donc, le projet, en fait, en quelque sorte, s'est présenté à moi et j'ai pu le concrétiser.
Alors, l'idée, c'est que ces gîtes, ils s'adressent aux touristes qui passent une nuit, justement, dans un périple plus long, par exemple, le long du chemin de halage, ou à des gens qui peuvent rester plus longtemps. Qui est-ce que vous visez?
Alors, c'est vrai qu'au tout début, c'était essentiellement pour les personnes qui faisaient la vélo française. Et au fur et à mesure, eh bien, il y a eu des personnes qui ont souhaité rester 2-3 jours, puis une semaine. En général, c'est le maximum que je reçois. Mais c'est vrai qu'en fait, ça s'est un petit peu développé en termes de clientèle. Au début, ouais, c'était vraiment les cyclotouristes plutôt jeunes retraités. Maintenant, j'ai les familles, des jeunes couples sans enfants. C'est assez vaste maintenant. Un petit peu moins d'étrangers maintenant avec la crise sanitaire. Mais je peux avoir vraiment une clientèle très très variée.
Comment au début se sont passés les travaux, puisque j'imagine que les maisons n'étaient pas forcément en très bon état. Donc comment vous en avez fait de jolis gîtes qu'on peut voir à présent?
Oui, en effet, les maisons, elles étaient à l'abandon depuis plusieurs décennies. Donc on a tout repris vraiment du sol au plafond. Donc là, c'est le département vraiment qui a pris les choses en main, qui a fait les travaux, qui a vraiment suivi tous les travaux. Donc c'est vraiment eux qui ont mis un peu la main à la pâte. Et ensuite, c'est moi qui fais l'aménagement intérieur, donc pour rendre confortables les lieux.
C'est des gîtes qui peuvent accueillir combien de personnes chacun?
Alors au maximum 6 personnes. Après, s'il y a des enfants, on peut toujours être à 7-8. Mais ouais, pour être confortable, parce que ce sont des petites maisons quand même, hein, de 40-50 mètres carrés. Donc pour être confortable, voilà, 6 adultes, c'est déjà bien.
Et le fait que ce soit justement dans d'anciennes maisons éclusières, est-ce que c'est ça aussi, ce cadre ou l'histoire même de la maison qui peut aussi vous apporter un certain type de clientèle ou qui intéresse ceux qui viennent séjourner chez vous?
Oui, c'est vrai que ce sont des maisons un petit peu insolites et ça interpelle un petit peu. Parce que voilà, on est en bord de rivière, il y a une histoire, il y a un patrimoine derrière. Donc les gens voilà, sont intéressés de savoir un petit peu comment ça se passait avant. Et puis j'essaye de les replonger un petit peu dans l'histoire. Pendant la période estivale, il y a quelques bateaux qui passent. Donc voilà, ils sont devant l'écluse, ils voient un petit peu les bateaux passer, comment fonctionnent les écluses. Ça interpelle beaucoup. J'ai parfois des personnes qui étaient éclusiers à l'époque, qui aiment venir ici dans les maisons éclusières. Donc c'est vrai que ça, voilà, le côté historique interpelle et j'essaye autour de cela voilà, de créer une expérience pour que les gens vraiment ne soient pas juste en gîte, mais qu'il y ait vraiment à côté une histoire et qu'ils se disent on a séjourné dans une maison éclusière, pas uniquement dans un gîte.
Vous disiez, il y a des anciens éclusiers qui reviennent dans ces maisons éclusières. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça provoque en général comme réaction chez eux de voir ce lieu transformé?
Alors, c'est pas forcément des éclusiers de la Mayenne, mais des éclusiers qui ont travaillé sur des écluses ailleurs en France. Et souvent, ils viennent avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Parce que c'est souvent des personnes âgées, hein, forcément, qui étaient éclusiers et qui viennent séjourner dans les maisons éclusières. Et voilà, c'est une transmission aussi de voilà ce que papy faisait il y a 20 ans, 30 ans. C'est la transmission des générations, en fait. C'est ça aussi, c'est assez émouvant quand c'est comme ça, ouais.
Et alors, c'est vous, du coup, qui vous occupez aussi de la gestion de l'écluse, de faire passer les bateaux?
Oui, je m'occupe de 6 écluses, parce que les écluses dans le Nord-Mayenne sont assez proches les unes des autres. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le halage, je m'occupe de l'écluse, donc de la Fourmondière supérieure jusqu'à l'écluse des communes. Donc, il y a à peu près 6 kilomètres écluses. Je suis secondée pendant la saison par un éclusier qui travaille avec moi, qui m'aide pour les gîtes et pour l'éclusage. On a donc les 3 gîtes, les 6 écluses, j'ai le point ravitaillement de produits locaux et puis j'essaye de développer quelques animations aussi autour, des ateliers, aussi de la location de vélos. Voilà, j'essaye de... En fait, mon but, c'est de faire vivre le Nord-Mayenne, le halage parti du Nord-Mayenne, parce que c'est vrai que c'est peu connu. On a peu de bateaux qui viennent jusqu'à nous parce que justement il y a beaucoup d'écluses et peu d'éclusiers et voilà, j'essaye de faire vivre un petit peu le Nord-Mayenne et de rendre le Nord-Mayenne un petit peu attractif en fait, voilà, pour que les gens aient envie de venir découvrir cette partie du halage.
Puis je pensais, avec la crise sanitaire qu'on subit en ce moment, comment ça se passe pour vous? Est-ce que les réservations là reprennent un petit peu? Comment ça marche?
Oui, en effet, depuis les dernières annonces gouvernementales, les choses reprennent. Là, j'ai quasiment des réservations tous les jours. Moi, c'est essentiellement de la nuitée, hein, comme je vous disais, parce que c'est beaucoup de cyclotouristes. Donc, c'est vrai que le calendrier, on n'a pas l'impression que ça se remplit beaucoup, parce que voilà, c'est nuitée par-ci, par-là. Mais voilà, les choses reprennent pour les gens, notamment les Mayennais, parce que j'ai parfois aussi des Mayennais qui viennent séjourner dans les maisons éclusières. C'est d'ailleurs ça qui a sauvé un petit peu ma saison l'année dernière, hein, les Mayennais qui sont venus en séjour. Donc c'est vrai que pour les personnes qui veulent passer un week-end, en général, ils attendent de voir un petit peu la météo. C'est toujours un peu plus sympa de se promener sur le halage, faire du vélo sur le halage quand il fait beau. Donc c'est beaucoup de dernières minutes aussi. Hein, donc voilà, c'est... Donc il faut toujours être un petit peu au taquet, comme on dit, et puis être disponible pour répondre aux questions.
Alors, je m'appelle Thomas Crépeau, je suis à l'écluse de la Benâtre. Le nom de mon restaurant, c'est Le Bayel, et j'y suis depuis 3 ans.
Donc un restaurant qui justement a cette particularité d'avoir 2 endroits, on peut dire, où on peut en profiter?
Exactement, ouais. L'hiver, je suis donc au village, dans le bourg d'Aurigné. Et l'été, je descends au bord de l'eau dans la maison éclusière.
Comment ça s'est fait? Comment ça s'est mis en place, ce projet?
C'est pas prévu à la base. Moi, je venais à l'origine pour reprendre le restaurant du village, qui s'appelait donc déjà Le Bayel à Aurigné. Et en montant le projet, en fait, pour le village, la municipalité a appris que la maison éclusière était libre. Elle se libérait. Historiquement, c'était 2 restaurants séparés. Et donc du coup, c'est le conseil municipal qui m'a proposé tout de suite de reprendre les 2 restaurants d'un coup pour en fait n'en faire qu'un seul. Et ça permet d'assurer, entre guillemets, la pérennité du commerce sur le village, parce que comme ça, il n'y a plus qu'un seul restaurateur sur Aurigné.
Et donc du coup, avec ce rythme un peu particulier, j'imagine que là, vous préparez à ce déménagement, on va dire, et cette réouverture en même temps des restaurants d'ici quelques jours?
Exactement, ouais. À chaque printemps, on déménage tout, on fait la transhumance. Donc, on descend absolument tout, toute la vaisselle, tout le stock, tous les équipements d'un restaurant. C'est aussi le moment où on fait le grand ménage de la cuisine, du sol au plafond, des salles de restauration, etc. Et puis, c'est vraiment deux lieux différents. Et c'est un peu comme avoir 2 restaurants dans 2 endroits différents.
Est-ce que ça change quelque chose au niveau des plats que vous proposez à la carte ou pas du tout?
Alors au niveau de la gamme des prix, non, ça change pas. J'ai toujours moi un menu du jour qui est au même prix toute l'année. Après, forcément, ça change parce que je suis beaucoup les saisons. Donc évidemment, je vais cuisiner beaucoup de tomates et de courgettes l'été à l'écluse avec beaucoup de fruits d'été. Et forcément, l'hiver, quand je suis au village, on cuisine plus des légumes d'hiver avec des pommes et des poires. Voilà. Mais sinon... sur le mode de cuisine, ça ne change rien.
Et au niveau justement de vos clients, forcément ce ne sont pas les mêmes quand on est à l'année au village à Aurigné. Et là ici, avec un afflux de touristes bien plus important, j'imagine, sur le chemin de halage, ça joue ça aussi ?
Alors ouais, ça joue. Ce qui est différent, donc bah il y a les habitants du village, eux ils suivent parce que de toute façon, comme je suis le seul commerce, bah ils prennent l'habitude de venir. Ils sont contents de venir boire un coup au bord de l'écluse quand ils ont le, enfin quand on aura à nouveau le droit. Et puis de venir chercher leurs baguettes de pain aussi. Je fais des pots de pain, donc voilà, pour eux ça ne change rien. Mais après c'est vrai que oui, forcément j'ai une clientèle qui est beaucoup plus touristique dès qu'on est au bord du halage. On n'imagine pas le nombre de personnes qui y a passé tous les jours. Donc forcément, on attrape une clientèle qui est différente, qui est plus variée, des gens qui voyagent, qui traversent la France et qui passent juste devant chez moi.
Est-ce que justement ça se joue en termes de volume d'activité ? Est-ce que par exemple vous recrutez des personnes exprès pour cette période estivale ?
Oui, donc quand je suis au village, moi je travaille tout seul. Parce que c'est un choix de ma part, et puis je suis ouvert que du lundi au vendredi, seulement le midi, alors que quand je suis à l'écluse, je suis ouvert du mardi au dimanche, et à partir du mois de juin, je fais aussi les soirs, je fais jeudi, vendredi, samedi soir. Et là, du coup, vu qu'il y a beaucoup de passages tout le temps, je recrute deux personnes avec moi, et il y a aussi en plus la partie éclusage dont on doit s'occuper, donc ça prend aussi du temps. Donc j'ai deux salariés, plus des fois je prends même une plongeuse à mi-temps. Donc on est presque 3 et demi à travailler l'été.
Ah oui, parce qu'après c'est aussi vous du coup qui avez en charge vraiment le passage des bateaux à l'écluse.
Tout à fait, ça fait partie de la convention en fait que j'ai avec le département. Si je veux exploiter, louer et occuper la maison éclusière, je dois aussi m'occuper de la gestion du passage des bateaux.
Ça veut dire qu'il y a un salarié qui peut être voilà, en train de servir des clients et qui arrête pour faire passer un bateau concrètement, c'est ça ?
Exactement. Alors après, oui et non, parce que l'éclusage a des horaires. Et ce qui est très intéressant pour un restaurant, c'est que les horaires d'éclusage, il y a une pause le midi. Donc entre midi et demi et 14h, il n'y a pas d'éclusage. Donc ça tombe bien, c'est le moment où on a le plus de clients à table, donc on peut s'occuper du service tranquillement. Mais c'est vrai qu'en fin de service, il est très courant qu'entre deux cafés à 14h, le serveur soit obligé d'aller faire passer un bateau. Ça fait partie du spectacle et du charme du lieu.
C'est ce que j'allais dire, c'est un peu la contrepartie aussi d'être dans un lieu comme ça, quand même assez sympa, j'imagine.
Oui, non, c'est très agréable. Et puis c'est vrai que même les clients sont contents d'être en terrasse et de voir le bateau qui monte ou qui descend, qui passe l'écluse, le fonctionnement des portes, etc. Donc c'est toujours c'est toujours très agréable et très apprécié des gens.
Juste une dernière question sur le contexte un peu particulier. Forcément, j'imagine que ça fait plusieurs mois que vous faites de la vente à emporter. Là, vous avez hâte de voir vos clients en vrai ?
Oui, je suis pressé. Après, moi, je suis content parce qu'avec la vente à emporter, je fonctionne quand même bien. J'ai un bon volume, j'ai toujours du travail et j'ai une clientèle qui est très fidèle et très régulière sur le village, donc j'ai quand même un lien avec les clients, même s'ils sont pas assis à ma table. C'est toujours le côté frustrant, c'est que moi j'aime bien voir les clients manger et voir entre guillemets les assiettes vides. C'est signe que ça leur a plu. Là, je peux plus voir les assiettes vides en ce moment, donc c'est ça qui me manque, surtout de pouvoir les servir et d'avoir vraiment le ressenti des gens juste quand ils ont mangé le plat ou le dessert et qu'ils vous disent « Ah, j'ai apprécié ça, est-ce que vous avez la recette de ça ?» C'est ces petits moments-là qui manquent, mais normalement, ça devrait revenir très bientôt. Donc, dès le 19 mai, j'ai le droit d'ouvrir la terrasse, donc en espérant qu'il fasse beau, parce que s'il pleut, ce sera un peu compliqué. Après, moi, j'ai un barnum qui est quand même abrité, mais on pourra pas mettre énormément de gens. Mais oui, c'est sûr que dès le 19 mai, nous, la terrasse, l'après-midi, dès qu'il y aura un rayon de soleil, on sera ouvert de toute façon. Donc s'il fait beau, je pense qu'on va quand même très bien travailler. Et puis après, à partir du 9 juin, on sera en configuration quasiment normale. Donc ça va être parfait.
Et le restaurant est justement, depuis aujourd'hui, désormais à l'écluse. Vous pouvez retrouver tous les plats à emporter sur la page Facebook Le Bayel. Et puis, concernant le gîte, retrouvez toutes les infos des refuges du halage sur le site rdhmayenne.com. Pour déposer les dossiers pour les écluses de Mirevaux et de Pendu à Château-Gontier, les candidats ont jusqu'au 31 mai. On revient d'ici quelques minutes, juste après Minina de Pirapora.
fast and I knew this won't last, cause you like the light and I like the dark, so it's combined, it's like a day and night fight. We used to meet at 2:02 but now the clock tells 2:03. Yeah, it's always hard to meet the moon in the daytime. Yeah, it's always hard to hold on to someone you just can't hide.
De Pirapora avec mon très bel accent sur l'autre radio. Vous êtes dans l'agité du local. On est jeudi et jeudi, c'est donc le 4e épisode de notre feuilleton cette semaine auprès du chœur In Paradisum lors de l'enregistrement de leur 2e album. C'était la semaine dernière sur la scène du Carré à Château-Gontier et après avoir entendu les jours précédents la directrice artistique Désirée Pantier et la soliste Amélie Raison associée sur ce projet, je vous propose de regarder du côté des coulisses avec Thomas Ricou, le technicien du son, qui nous explique son rôle sur ce projet précis.
En fait, In Paradisum m'a contacté pour refaire un disque ensemble. On avait déjà travaillé ensemble sur le précédent. Et donc voilà, je suis venu au Carré. Enfin voilà, ils ont proposé de faire ça au Carré, qui est quand même un théâtre qui a une très très chouette acoustique. Et donc voilà, ils m'ont demandé de venir faire la prise de son pour eux. Et donc après, de restituer au mieux ce qu'ils proposent.
Dès le début, est-ce que vous saviez quelle disposition il allait avoir, combien de micros, tout l'aspect technique, comment est-ce qu'on gère ça?
Alors en fait, il y a, ce qu'on a un peu dans la tête de base. Donc il y a une implantation que j'ai en tête, et puis après l'idée c'est de l'adapter en fonction de ce qu'on entend sur place, c'est-à-dire qu'effectivement suivant les morceaux ils ne sont pas disposés pareil, ils ne sont pas disposés forcément par pupitre, mais après l'idée c'est, sur ce genre de musique, l'idée c'est de capter le plus naturel possible, capter à la fois leur voix mais aussi l'acoustique du lieu. Parce que l'acoustique dans cette musique-là est quand même très très importante, donc c'est d'arriver à capter les deux. Et puis après, de voir avec eux, ils viennent écouter ici. Ça a été la première étape pour qu'ils soient, ce qu'ils entendent ici soit déjà très proche du résultat final. Et puis une fois que ça c'est fait, bah après c'est leur travail de chanter, de faire les bonnes versions et de travailler le côté musical. Ils font plusieurs versions. Moi, je scripte ça aussi au fur et à mesure. Comme ça, quand ils viennent ici, on écoute directement les bonnes versions. Et puis et effectivement, après, c'est eux qui choisissent les versions qu'ils veulent. C'est très complémentaire, c'est-à-dire que s'ils font appel à quelqu'un d'extérieur, c'est vraiment pour se décharger de tout le côté technique et pour vraiment se concentrer sur le côté musical. Et pour le coup, sur ce type de projet, moi je suis là vraiment pour le côté purement technique. Donc faire en sorte que la prise de son fonctionne et qu'ils entendent ce qu'ils veulent. Donc oui, on est vraiment, l'un marche pas sans l'autre pour le coup.
Et demain un feuilleton tout en musique aussi, avec un zoom sur la suite de la conception de l'album, c'est-à-dire comment on passe des enregistrements déjà réalisés à un album qui sera prêt à être écouté. C'est désormais l'heure de la rubrique Initiative, et Claire, après le sondage pour la mobilité à Ernée, place à la balade virtuelle.
On vous en avait parlé, la communauté de communes en partenariat avec le Bocage Mayennais avait mis en place une vaste enquête pour mieux connaître les moyens de déplacement de ses habitants. À l'issue de ce sondage, il devait y avoir une balade en car pour visualiser les possibles difficultés rencontrées pour les vélos ou piétons, etc. Cette balade en car sera finalement virtuelle. Pour y participer, il faut s'inscrire et il faut envoyer un mail à pcaet@lernay.fr. Attention, les inscriptions sont jusqu'à ce lundi 10 mai.
Et Claire, on prépare déjà les activités de nos enfants pour ce week-end.
Aurore Petit s'est installée récemment en Mayenne et a fondé l'association Artisvic. Pour initier les enfants à l'art, diplômée d'histoire de l'art et ancienne animatrice, la jeune femme a constaté que l'accès à la culture en milieu rural pour les enfants est toujours compliqué. Son association permet d'organiser des ateliers en lien avec les écoles et les centres de loisirs, avec par exemple pour les 0-3 ans des ateliers sensoriels, des jeux avec la lumière ou la matière. Les ateliers ouvriront dès que les conditions sanitaires le permettront. En attendant, vous pouvez piocher quelques idées pour ce week-end sur son compte Facebook Artisvic, où vous trouverez par exemple une activité pistolet à eau et peinture inspirée des tournesols de Van Gogh.
Pistolet à eau et peinture. Il faut être motivé hein, pour proposer ça à ses enfants. Mais c'est une belle idée en tout cas. Merci beaucoup Claire. Et en parlant de compte Facebook justement, n'hésitez pas à nous suivre évidemment sur l'autre radio. Et si vous avez d'autres initiatives, d'autres idées, d'autres messages à partager, en attendant celui de Georges Clounet évidemment, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal sur notre répondeur. On rappelle le numéro, le 09 70 40 59 40. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce jeudi. Merci beaucoup Claire, à demain.
Et merci Marie, merci tout le monde et à demain.
On se retrouve demain évidemment, mais avant à l'antenne à 19h il y aura le Grand V autour des collaborations dans la chanson française dont certaines assez inattendues, vous l'entendrez, suivi à 21h de Transistor. Nous, on se retrouve donc demain à 12h15 pour la dernière émission de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.